Une fois par mois, vous écoutez Billets d'Afrique, une émission où on ne parle pas que d'Afrique.
Regarde comme au fil des siècles cette histoire se répète. C'est toute une légion qui se lance à notre conquête.
Une émission où l'on parle de colonialisme. Parce que ça manque dans le paysage.
Territoire occupé.
Parce que si on veut que le monde change, il va falloir changer les règles du jeu.
Comment veux-tu qu'on s'appelle lorsque leur troupe s'honore réelle?
Les textes de ce billet d'Afrique et d'ailleurs de janvier 2026 ont pour source la revue Décolonisons de l'association Survie et l'agence de presse Anadolu Agency. Petite exception du fait de l'agenda de la trêve de fin d'année, diffusion de l'émission sur les ondes de fréquence 7 le 16 janvier, rediffusion le 30 janvier. Vous pouvez bien sûr écouter l'émission quand vous le voulez sur le site de fréquence 7 ou après l'avoir téléchargée. Il est de tradition de saluer l'année commençant, alors je vous souhaite de garder les yeux bien ouverts sur les injustices du monde, d'en chercher et analyser les causes et les effets, et d'agir opiniâtrement pour leur réparation. Et à tout à chacun, nous sommes nombreux, ajoutez-vous. Polynésie attaquée pour enfin discuter. En 2022, Moetai Broterson, alors député, critiquait un État français aux abonnés absents dès qu'il s'agit de parler décolonisation de la Polynésie française, pourtant inscrite depuis 2013 sur la liste des territoires non autonomes de l'ONU. Chaque fois que nous prenons la parole aux Nations Unies, l'ambassadeur français quitte la salle et ne revient que lorsque nous avons fini de parler. 3 ans plus tard, les indépendantistes polynésiens tentent de forcer la main à Paris. Fin 2024, l'Assemblée polynésienne où le parti Tivani Wiraatira est majoritaire votait une résolution appelant la France à enfin ouvrir le dialogue sur le sujet, sans quoi son président, Anthony Géros, serait autorisé à l'attaquer en justice. Ne relevant pas de la compétence du Parlement local, la démarche n'avait aucune chance d'aboutir. Mais, ce 22 octobre, Moetai Broterson, désormais président de la Polynésie française, a annoncé qu'il allait bien attaquer en justice l'État très prochainement au nom de sa collectivité pour l'obliger à s'asseoir enfin à la table des discussions. En effet, lui en a le droit. Un dirigeant responsable doit considérer tous les instruments pacifiques et légaux quand il est face à une impasse, avait-il indiqué quelques semaines plus tôt devant la 4e commission de l'ONU en charge de la décolonisation. Macron s'accroche à la RDC. La Conférence internationale sur la République démocratique du Congo, RDC, qui s'est tenue à Paris à l'initiative de l'Élysée, vise davantage à réintroduire la France dans le jeu diplomatique qu'à venir en aide aux populations. Le 30 octobre s'est déroulée à Paris une conférence internationale de Paris pour la paix et la prospérité, initiée par l'Élysée, à l'issue de laquelle le président Macron a annoncé une aide de plus de 1,5 milliard d'euros dans le cadre du plan de réponse humanitaire des Nations Unies. Ce dernier, qui estime les besoins à 2,5 milliards d'euros, n'était pour l'instant financé qu'à hauteur de 16%. Il s'agit notamment, selon les mots du président français, de ne pas demeurer des spectateurs silencieux de la tragédie qui se joue dans l'est de la République démocratique du Congo. La situation des populations victimes de combats, de l'insécurité et de la privation de ressources est indéniablement catastrophique et les ONG présentes ont salué une initiative permettant de remettre leur situation en lumière. Mais elles accueillaient également avec prudence les chiffres annoncés. Pour une part importante, il s'agit en effet de dépenses déjà engagées ou de promesses déjà formulées, toujours sans garantie ni échéancier précis. Pire, la manie présidentielle des coups diplomatiques pourrait bien se révéler contre-productive. Souscrivant aux demandes du président congolais, Macron a en effet annoncé le redémarrage partiel de l'aéroport de Goma, sans lequel l'acheminement de l'aide humanitaire est compromis. Certains responsables d'ONG craignent désormais que cette annonce, non négociée préalablement, ne braque le mouvement rebelle M23 qui occupe la ville de Goma depuis fin janvier, ainsi que son parrain rwandais. De fait, tous les deux ont répliqué aux annonces de Macron par des déclarations acerbes, tout comme certaines figures de l'opposition congolaise en proie à une répression qui s'intensifie. On peut malheureusement penser que l'initiative française était moins motivée par l'urgence humanitaire que par l'urgence de réinsérer la France dans le grand jeu diplomatique, voire économique. Paris, qui entretient une diplomatie équilibriste entre le Rwanda et la RDC, tente depuis longtemps d'organiser une rencontre directe entre les présidents des deux pays, en vain. Initialement associé aux démarches des États-Unis et du Qatar dans ce dossier, les diplomates français se sont finalement retrouvés sur la touche quand Trump a imposé un accord politico-économique entre le Rwanda et la RDC et que le Qatar a joué de ses relations économiques pour négocier un accord de cessez-le-feu entre la RDC et le M23. Sur le terrain, ces accords restent en réalité lettre morte et les combats se poursuivent. La France y a vu l'occasion de se rappeler au bon souvenir des différents protagonistes et de revendiquer à nouveau un rôle de médiateur à égalité avec l'Union africaine, les USA et le Qatar. Reporté depuis plusieurs mois, le projet de conférence se heurtait notamment à l'hostilité du président angolais, João Lourenço, qui assure la présidence tournante de l'Union africaine et plaide en faveur d'une solution africaine. Lui-même a conduit pendant 2 ans une médiation entre Kinshasa et Kigali qui a échoué et qui, en son temps déjà, avait été parasitée par les initiatives diplomatiques de la France. Paris a en revanche l'appui de président togolais, Faure Gnassingbé, désigné nouveau médiateur, plutôt passif jusque-là, de l'Union africaine, mais récemment parachuté co-organisateur de la conférence par l'Élysée. Outre ce vernis africain, Macron a joué la carte de la grande conférence humanitaire pour légitimer son ingérence diplomatique, comme il l'avait déjà fait pour Gaza, le Liban ou le Soudan ces 2 dernières années. Dans un contexte où les coupes drastiques de l'aide américaine sèment la panique parmi les ONG, l'initiative ne pouvait qu'être bien accueillie. Mais politiquement, la conférence de Paris est loin d'être un succès. Outre le président togolais, le président congolais Félix Tshisekedi était le seul chef d'État présent alors que la conférence affichait une ambition régionale. Ni le président rwandais, ni ses homologues burundais et ougandais, ni les chefs d'État des pays impliqués dans la crise, à un titre ou à un autre, n'ont fait le déplacement. La conférence, également dite pour la prospérité, comportait aussi un volet sur l'intégration économique régionale et les opportunités d'investissement. Difficile de ne pas y voir une tentative pour Paris de promouvoir les intérêts français, alors que l'accord imposé par Trump comporte une dimension économique visant explicitement à greffer des intérêts américains sur les projets régionaux. Parmi ceux-ci, le projet frontalier de barrage hydroélectrique de Ruzizi 3, dont Total Energy est récemment devenu actionnaire à hauteur de 20%. Le seul pétrolier opérant RDC est par ailleurs l'entreprise franco-britannique Perenco, bientôt jugée en France pour préjudice écologique en RDC. Si Macron se souciait réellement, comme il le proclame, des déchirures d'une humanité blessée dans les grands lacs, il pourrait commencer par l'empêcher de nuire. Raphaël Granvaux.
Tous les jours, t'es qu'à dis-moi, tous les jours, t'es qu'à parler pour moi. À tous les jours, toujours, t'es qu'à dis-moi, tellement, moi, tout, moi, c'est si au miel.
La compagnie française Total de la condamnation pour pratique commerciale trompeuse à l'accusation de complicité de crimes de guerre. Total Energy peut se vanter d'être responsable d'une décision judiciaire historique, la condamnation d'un groupe pétrogazier pour pratique commerciale trompeuse. C'était le 23 octobre devant le tribunal judiciaire de Paris. En cause, la diffusion par la multinationale de messages reposant sur les allégations portant sur son ambition d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 et d'être un acteur majeur de la transition énergétique de nature à induire en erreur le consommateur sur la portée des engagements environnementaux du groupe. Cette décision fait suite à l'action initiée en 2022 par les Amis de la Terre, Greenpeace et Notre Affaire à Tous, et soutenue par Client Earth, contre la campagne lancée par Total pour verdir son image et cacher une réalité écocide. En 2024, les énergies fossiles représentaient près de 80% de ses investissements et plus de 97% de sa production énergétique globale. Le groupe prévoit d'ailleurs d'accroître encore sa production d'hydrocarbures en Afrique, comme en atteste l'acquisition de nouveaux permis d'exploration dans plusieurs pays. Et le lendemain même de la condamnation, son PDG, Patrick Pouyanné, envoyait un courrier au président mozambicain Daniel Chapo, confirmant sa décision de relancer sur le site d'Afungi, dans la province du Cabo Delgado, son méga-projet gazier Mozambique GNL, dont il est le principal actionnaire, suspendu suite à l'attaque djihadiste d'avril 2021. Production espérée, 13,1 millions de tonnes par an de gaz naturel liquéfié, une bombe climatique, accusent les ONG environnementales, alors que Total n'en finit pas de promouvoir le gaz naturel comme une énergie clé pour la transition écologique. Mais voilà qu'une autre accusation est à nouveau portée contre la société. L'ONG European Center for Constitutional and Human Rights l'accuse de complicité de crimes de guerre, torture et disparition forcée pour avoir directement financé et soutenu matériellement la Joint Task Force composée de forces armées mozambicaines embauchées par Total pour défendre le site d'Afungi, alors que celle-ci aurait détenu, torturé et tué des dizaines de civils. Le 17 novembre, ECCHR a déposé plainte à Paris auprès du parquet national antiterroriste, qui a aussi compétence pour les crimes et délits de guerre. À l'appui de sa démarche, elle rappelle que le média Politico avait révélé qu'en 2021, entre 180 et 250 civils accusés de soutenir les djihadistes, qu'en fait ils fuyaient, avaient été enfermés par la JTF dans des conteneurs, battus et torturés pendant 3 mois. Seuls 26 ont survécu. Total a prétendu ne pas avoir connaissance de telles exactions. Une prétention balayée par une enquête conjointe du Monde et de sources matérielles, prouvant sur la base de documents internes de la compagnie qu'elle savait dès 2021 que les soldats chargés de protéger son site gazier au Mozambique étaient accusés de violenter, d'enlever et de tuer des civils. Les 10 soldats employés par Total avaient, peu avant, à quelques kilomètres de là, laissé les djihadistes massacrer plus de 1000 civils. Ce qui leur avait déjà valu, en octobre 2023, une plainte, cette fois pour homicide involontaire et non-assistance, à personne en danger. Il y a décidément urgence à mettre fin aux méfaits du fleuron tricolore qui, avide de profit, n'hésite pas à violer les droits environnementaux et humains. Texte de Jean Boucher.
« et puis quoi ta complicité à casa moins.
Oh, chat qu'a tété rat, rat qu'a tété chat à pas pour jamais. Papa,
j'ai appelé, chat, et quoi ta complicité à casa
moins. Oh, chat qu'a tété rat, rat qu'a tété chat à casa moins.
La France complice de massacre encore. Le 17 octobre, BNP Paribas a été condamné par un jury populaire à New York pour avoir financé de 2009 à 2019 l'armée et les milices de l'ancien président soudanais Omar el-Béchir. Cette condamnation fait suite à la plainte de trois réfugiés soudanais qui ont dénoncé des viols et des actes de torture. La banque française devra leur verser 21 millions de dollars. Le risque financier est grand puisque ce dossier compte quelque 25 000 plaignants, explique RFI en octobre 2025, qui précise que ce jugement pourrait faire jurisprudence et conduire la banque à payer une très lourde facture. Sa réputation est aussi bien entamée puisqu'elle a déjà été condamnée en 2014 pour son rôle dans le financement de l'armée soudanaise et des milices alliées responsables d'exactions contre des civils au Darfour. Par ailleurs, la France pourrait être indirectement impliquée dans les massacres en cours actuellement dans ce même Darfour, notamment lors de la prise de sa capitale El Fasher par les forces de soutien rapide le 27 octobre. Un rapport d'Amnesty International publié en novembre 2024 montre que des armes utilisées dans ce conflit sont fournies par les Émirats arabes unis qui s'alimentent notamment auprès d'entreprises françaises comme la Croix Défense et KNDS France. Au regard du droit international, rappelle l'ONG, la France ne devrait pas autoriser ces transferts vers un pays en guerre sous embargo comme le Soudan. Paris se rend ainsi une nouvelle fois complice d'un crime de masse.
10 000 Dimilo, dimilo, mimilo, la chepa la maga sati show. Dimilo, mimilo, dimilo, mimilo, dimilo, mimilo, la chepa la maga sati show.
L'union des droites sur le dos des Algériennes et Algériens. C'est une nouvelle sale victoire pour le Rassemblement national. Le 30 octobre dernier, pour la première fois de son histoire, et avec la complicité des députés Les Républicains et Horizon, le parti d'extrême droite a réussi à faire adopter un texte à l'Assemblée nationale. Pas n'importe lequel, une résolution dénonçant l'accord franco-algérien de 1968. Entre les huées des bancs de la gauche et les cris de joie des parlementaires RN, un silence, celui des macronistes d'ensemble pour la République EPR, dont moins d'un tiers a estimé nécessaire de faire le déplacement au Palais Bourbon. Mais en quoi consiste cet accord qui attire tant les foudres de la désormais largement actée Union des droites ? Il organise la circulation et le séjour des ressortissants algériens en France avec un certain nombre de mesures spécifiques et théoriquement avantageuses, comme une procédure accélérée pour l'obtention du titre de séjour, un regroupement familial facilité ou encore une liberté d'établissement pour certaines activités. Outre le fait que cet accord n'était en réalité nullement philanthropique, car il s'inscrivait dans un contexte de forte demande française en main-d'œuvre, il constituait un recul par rapport aux accords d'Évian signés 6 ans plus tôt et ne facilite qu'à la marge la vie des Algériens par rapport aux autres étrangers non européens. Quand il ne la rend pas carrément plus difficile, voire Mediapart en octobre. Dès lors, pourquoi le RN et la droite dite républicaine derrière lui tiennent-ils à tout prix à porter au pilori ce texte, même symboliquement? Cette résolution n'est en effet pas contraignante pour Emmanuel Macron, le seul à posséder un pouvoir décisionnaire en la matière. La position du RN, fondée entre autres par l'ancien Waffen-SS Pierre Bousquet et le cadre de l'OAS Roger Olyndre, est somme toute assez peu surprenante. C'est celle d'un parti qui, plus de 60 ans après, n'a toujours pas digéré l'indépendance algérienne, comme en témoignait en 2022 à l'inauguration de la nouvelle législature, le discours du député d'extrême droite pied noir José González, qui s'était dit « arraché à sa terre natale par le vent de l'histoire ». On en pleurerait. Mais ce que dévoile encore un peu plus l'adoption de cette résolution, c'est surtout la radicalisation d'un pan énorme de la politique française, cette fusion des droites sur un terrain identitaire revanchard qui ne cache plus ses obsessions racistes et coloniales. Et tout cela avec l'accord tacite de la Macronie, voire avec sa bénédiction. Deux semaines avant l'adoption de la résolution, les députés EPR Mathieu Lefebvre et Georges Rodwell rendaient un rapport parlementaire dans lequel ils fustigeaient l'accord de 1968 au nom du principe d'égalité envers les autres étrangers. Les deux élus argumentant « attention, cette cascade est réalisée sans trucage par des professionnels », plus le droit commun évolue, plus celui-ci devient discriminatoire pour les autres étrangers par rapport à celui applicable aux ressortissants algériens. Le problème n'est donc pas que les législatures successives ont pourri la vie des personnes qui veulent venir et rester dans notre pays, non. C'est manifestement que malgré la violence administrative, la nostalgie coloniale et la montée du fascisme, la vie des Algériens de France n'est pas encore assez pourrie comme ça. Texte de Nicolas Butor. Fin décembre, le Parlement algérien adopte la loi criminalisant le colonialisme français. La nouvelle loi algérienne considère la colonisation française de l'Algérie comme un crime d'État qui viole les principes et les valeurs humaines, politiques, économiques et culturelles consacrées dans les lois. L'Assemblée populaire nationale algérienne, l'APN, a adopté le 24 décembre 2025 le projet de proposition de loi criminalisant le colonialisme français en Algérie. Le vote autour de ce texte s'est déroulé lors d'une séance plénière marquée par la présence de l'ensemble des députés. Ces derniers ont approuvé le texte à l'unanimité. Le projet, d'une trentaine d'articles, s'appuie sur les principes du droit international et de la Constitution algérienne consacrant le droit des peuples à l'autodétermination et à la justice historique, ainsi que l'impunité face aux crimes coloniaux. Le document, élaboré par un groupe de députés, vise à criminaliser le colonialisme français en Algérie depuis l'agression du 14 juin 1830 jusqu'au 5 juillet 1962, ainsi que ses conséquences directes et indirectes sur les Algériens. Débattu pendant quelques jours, le texte a subi des amendements avec l'intégration parmi les crimes coloniaux, notamment de l'agression de l'État algérien, les assassinats de civils, la torture, l'usage d'armes prohibées et les lois discriminatoires à l'égard du peuple autochtone. Selon le document final consulté par les journalistes de l'agence turque Anadolu, la colonisation française de l'Algérie est considérée comme un crime d'État qui viole les principes et les valeurs humaines, politiques, économiques et culturelles consacrés par les lois, les chartes et les coutumes internationales et nationales. L'État algérien s'efforce de révéler et de diffuser les faits historiques liés à la colonisation française de l'Algérie, ajoute cette loi. La loi répertorie 27 formes de crimes coloniaux français qui comprennent, selon le texte de l'article 5, les meurtres et les attaques militaires contre la population civile, l'usage excessif de la force armée, l'utilisation d'armes non conventionnelles et interdites au niveau international, la pose de mines, les essais et explosions nucléaires, les exécutions extrajudiciaires, le pillage du trésor public algérien, la soumission des seuls Algériens à des lois d'exception et la pratique généralisée de la torture physique et psychologique. Pour rappel, l'idée de légiférer sur le colonialisme remonte à 1984, à l'époque du Parti unique en Algérie. Mais elle a rencontré de nombreux obstacles. En 2001, un député avait proposé à nouveau un texte visant à criminaliser les crimes coloniaux. D'autres initiatives ont suivi en 2005, 2006, 2017, 2020 et 2021. Le 30 novembre 2025, le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a appelé à la criminalisation du colonialisme en Afrique, qui a mené une guerre d'extermination contre les populations autochtones tout en pillant leurs richesses. Il est temps de criminaliser le colonialisme en entier, au lieu de se contenter de la condamnation de seulement certaines de ses pratiques et ses effets, a-t-il déclaré à l'ouverture à Alger d'une conférence internationale sur les crimes coloniaux en Afrique. Selon le chef de la diplomatie algérienne, l'Afrique est en droit d'exiger la reconnaissance officielle et explicite des crimes commis contre ses peuples durant la période coloniale et de réclamer une indemnisation juste et la restitution des biens spoliés. Un éléphant, ça trompe, ça trompe. Au Tchad, des éléphants, ça trompe énormément. Surtout quand c'est l'ONG colonialiste African Parks Networks, APN, qui en fait le décompte, se vantant d'avoir permis une augmentation de 40% de leur population au Tchad. La réalité est bien en deçà, au mieux plus 15%, alors que naturellement, elle aurait dû doubler, selon Olivier Van Biemen, dans son livre « Au nom de la nature », c'était dans Billets d'Afrique, de mai 2025. Le ministre tchadien de l'Environnement, de la Pêche et du Développement Durable, Hassan Bakik Djamous, n'a donc pas tort de s'inquiéter. Le 6 octobre dernier, il a mis fin unilatéralement au mandat confié par le gouvernement tchadien en 2010 et 2017 à l'APN pour gérer les réserves de l'Enedi et Zakouma, qui inclut le parc national de Siniaka-Minia. Motif, lutte insuffisante contre le braconnage, défaut d'investissement pour améliorer les infrastructures et développer le tourisme, arrogance vis-à-vis des autorités locales, gestion opaque des financements provenant des donateurs, principalement l'Union européenne. Celle-ci est aussitôt venue à la rescousse d'APN, annonçant le gel de sa subvention de 20 millions d'euros en cas de non-réconciliation. Le 17 octobre, le ministre tchadien Sinieta N'Djamena avec APN un communiqué annonçant de nouveaux accords. Le pactole des crédits carbone et autres services dits écosystémiques, dixit Olivier Van Biemen, n'a pas fini d'attiser les convoitises.
Ma kou mwen panti a bo yive.
Mwen panse la me ou swa.
Oui, ma kou panti a bo yoye. Ma di la
ke la me ou swa.
Ma kou mwen panti a bo yoye. Ma di la
ke la me ou swa.
Soti la di si nan ti yive. Ma di la
ke la me ou swa.
Soti la di si nan ti a dwe.
Ma di la ke la me ou swa.
Misye dan di ben souble.
Ma di la ke la me ou swa.
Ok, Cameroun, Biya s'accroche au pouvoir, une imposture révélée à la face du monde. Le 27 octobre, le Conseil constitutionnel camerounais a sans surprise annoncé la victoire du dictateur Paul Biya à l'élection présidentielle. Une réélection saluée par la France et accompagnée d'une sanglante répression des manifestations contestant un scrutin truqué. Le regard d'Odile Dobner. En 1990, un vent de liberté souffle sur les peuples des ex-colonies d'Afrique francophone subsaharienne qui réclament des conférences nationales pour mettre fin pacifiquement aux régimes néocoloniaux france-africains installés 30 ans auparavant. Un seul pays, le Bénin, réussira cette transition. La revendication est particulièrement vive au Cameroun, où une sanglante guerre coloniale a précédé et suivi l'installation en 1960 d'un régime répressif fondé sur l'anéantissement du parti nationaliste de l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, et présidé par Amadou Ahidjo, puis Paul Biya à partir de 1982. L'espoir renaît donc au sein du peuple camerounais au début des années 1990, mais Paul Biya réprime les manifestations, faisant des centaines de morts. La première élection sous le multipartisme concédé par le pouvoir est finalement organisée en 1992. Les principaux partis d'opposition se liguent derrière la candidature de John Frundi, attaqué par le régime pour avoir fondé le SDF, Social Democratic Front. La coalition emporte de toute évidence le scrutin. Le pouvoir, après avoir communiqué un score invraisemblable digne du temps du parti unique, plus de 90% des suffrages en faveur de Biya comme en 1984 et 1988, ramène le résultat à 40% pour Biya, 36% pour Frundi. Ce dernier, craignant un nouveau bain de sang, retient les manifestants. Le même scénario, désormais parfaitement rodé, va se reproduire pour les élections suivantes, présidentielles ou législatives. La forfaiture s'étale chaque fois impudément. Aucune règle de droit n'est respectée dans le déroulement du processus électoral avalisé par des institutions postiches. Des autorités religieuses et politiques ont beau dénoncer cette mascarade à répétition, le pouvoir impavide déploie l'armée dans les villes, arrête les opposants, muselle la presse. Le pouvoir français, quel qu'il soit, félicite son homologue camerounais et le tour est joué. Emmanuel Macron va même ajouter à la sinistre farce une prétendue réconciliation des mémoires conclue avec le régime qui, conjointement avec l'armée française, a exterminé les patriotes camerounais lors de la guerre qui a ravagé le pays au moment de la décolonisation. Hitler se réconciliant avec Pétain en quelque sorte, véritable insulte aux morts de la résistance offerte par le président français à Biya l'imposteur. Arrive 2025 et la 8e candidature de Paul Biya à l'élection présidentielle, il a 92 ans, provoquant la dérision à l'international. Mais cette fois, la machine à truquer s'enraye. Le progrès du numérique et l'alliance citoyenne du mouvement pour le changement permettent de photographier et de transmettre immédiatement les résultats des bureaux de vote. 80% des suffrages sont ainsi collectés. Ils montrent une victoire irréfutable d'Issa Tchiroma Bakary, son ancien ministre passé à l'opposition. Que va faire le pouvoir ? Penser qu'il pourrait se soumettre à la volonté du peuple serait le créditer d'une intelligence et d'une honnêteté dont il ne possède pas un atome. Il plonge dans un ridicule et un discrédit planétaire que rien ne pourra effacer en proclamant la fausse victoire de Biya. Les conséquences immédiates sont tragiques, l'affrontement inévitable. Le peuple camerounais descend massivement dans la rue, la répression se déchaîne avec des tirs à balles réelles dans la foule et des arrestations massives. Le bilan est effrayant. Mais même si la clique tribaliste prédatrice et corrompue au pouvoir s'obstine à se maintenir par la terreur et le crime, sa forfaiture aura cette fois été mise en pleine lumière aux yeux du monde et l'infamie qui la marquera affectera aussi ses parrains français, gouvernement et médias qui, toute honte bue, n'ont pas dénoncé cette victoire volée, couvrant d'un silence de mort le martyr du peuple camerounais. La répression armée contre un peuple aux mains nues qui défend son droit à la vérité constitue un crime contre l'humanité qui ne peut pas rester impuni. La France et les pays soi-disant démocratiques doivent prendre des sanctions contre les responsables de cette sanglante tragédie, ne plus les accueillir, bloquer leurs avoirs acquis par la force et enfin les traduire devant la Cour pénale internationale. Sinon, qui pourra encore prendre au sérieux leur gesticulation au nom des droits humains ? Le procès du déchoucage des statues coloniales. Le 17 novembre, le tribunal correctionnel de Fort-de-France a rendu son délibéré dans l'affaire du déboulonnage en 2020 des statues de Victor Schœlcher, auteur du décret d'abolition de l'esclavage en 1848, Joséphine de Beauharnais et Pierre Belin d'Estnambuc, toutes datant de l'époque coloniale. De 11 personnes jugées pour destruction et dégradation aggravée de biens appartenant à une personne publique, 9 ont été relaxées, 2 reconnues coupables avec dispense de peine. Le tribunal, dans sa motivation, a clairement écarté qu'il s'agisse d'un dossier de droit commun en reconnaissant la dimension politique du déchoucage, déboulonnage en créole. L'acte posé par ces militants-là était justifié par la symbolique totalement inacceptable de ces statues dans le paysage martiniquais. On ne peut pas accepter que des statues représentant des personnages qui ont encouragé, participé ou bénéficié de l'esclavage soient encore mises en avant. Fait notable, aucune partie civile n'était constituée durant ce procès, les mairies où ont eu lieu les déboulonnages n'ayant envoyé aucun représentant. Les prévenus avaient fait de ce procès une tribune. Dans une société encore structurée par les inégalités raciales, sociales et économiques héritées de la colonisation et de l'esclavage, ce déchoucage constitue un acte de justice, de dignité et de réparation face à la banalisation, voire à l'apogée, d'un crime contre l'humanité dans l'espace public. Pour en savoir plus sur ce procès et voir les statues tomber, rendez-vous sur le site deschoucage.com.
Nous mêlés, mettre l'école à l'écouillon de moi, maman là.
Nous mêlés,
mettre l'école à l'écouillon de moi, maman là.
Nous mêlés,
papa les moins dit Christophe Colomb, professeur.
Nous mêlés,
papa les moins dit Napoléon, professeur.
Nous mêlés,
racontez-moi l'histoire pays, moi professeur.
Mêlé.
Racontez-moi l'histoire pays, moi professeur.
Mêlé.
Racontez-moi l'histoire Saint-Pierre, professeur.
Mêlé.
Racontez-moi l'histoire Beauregard, professeur.
Mêlé.
Racontez-moi André Aliker, professeur.
Mêlé.
Fais-nous apprendre un bel type au M.M. Césaire. Parlez-moi dit Christophe Colomb, professeur.
Mêlé.
Papa le mwen di Napoléon, professeur.
Mêlé.
Ou ka di mwen ke ansèt mwen se de
Gaulois. Mêlé.
Ou le fè mwen kwè ke ansèt mwen se de Gaulois.
Mêlé.
Racontez-moi l'histoire Saint-Pierre, professeur.
Mêlé.
Racontez-moi l'histoire Saint-Pierre, professeur.
Mêlé.
Asi pare Saint-Pierre te ni yon bel capital.
Mêlé.
Asi pare Saint-Pierre te ni yon bel carnaval.
Mêlé.
Toute marchandise te gade bache en Gambéa. Toute marchandise te gade bache en la Radla. Racontez-moi la grande bourgeoisie la ville Saint-Pierre. Racontez-moi la grande mulatrie la ville Saint-Pierre. Asi pare Kaïdada pour être la vie t'est belle. Asi pare t'es dit bon plaisir la caille bébé. Libertinage en toute sauce, la rue Victor Hugo. Toutes les jeunes gens, la marine, la rue Victor Hugo. Papa les moins dit Christophe Colomb, professeur. Papa les moins dit Napoléon, professeur. Mettre l'école à l'écouillon de moi, maman y'a. Maîtresse l'école à l'écouillon de moi, maman y'a. Il a dit moins qu'il y a 7 mois, c'est des Gaulois. Il est fait moins quoi qu'il y a 7 mois, c'est des Gaulois. Racontez-moi l'histoire, beau regard, professeur. Racontez-moi André Aliker, professeur. Racontez-moi ça qui fait chalvé, professeur. Dis-nous pour Tio, Dio, brille, coco, codé. Fais-nous apprendre un bel type pour aimer mes Césaire. Fais-nous apprendre un bel poésie et mes Césaire. Mettre l'école à l'écouillon de moi, maman, là. Mettre l'école à l'écouillon de moi.